Bonjour à tous. Réunis vendredi 30 septembre 2022 à Bruxelles, les ministres européens de l'énergie ont trouvé un accord sur des mesures d'urgence pour aider ménages et entreprises de l'Union face à l'explosion des factures. Beaucoup estiment qu'il faut aller encore plus loin à l'approche de l'hiver. Mais l'urgence de l'aide à apporter aux populations relègue au second rang depuis quelque temps la dimension environnementale du sujet. Pourtant, décarboner l'économie européenne à l'horizon 2050 reste l'objectif. Alors cet objectif est-il atteignable ? La question a été posée lors des 22e rencontres économiques d'Aix-en-Provence, début juillet. Michał Kurtyka, ancien ministre polonais du climat et de l'environnement, était au micro d'Uvaleco.
Je pense que dans la situation actuelle, où nous faisons face à un hiver qui sera probablement extrêmement compliqué, la question d'un objectif à long terme reste plus pertinente que jamais. Je pense que l'Europe s'est engagée pour réduire ses émissions CO2, pour aller vers la neutralité climatique pour 2050. Et je pense qu'il faut absolument maintenir ce cap. Même, je dirais, les circonstances actuelles, ça veut dire la guerre en Ukraine, l'agression de la Russie en Ukraine et une guerre dans laquelle nous, Européens, nous ne sommes pas engagés militairement, mais nous sommes en fait dans une guerre énergétique, parce que la Russie nous coupe du gaz, nous coupe de ses ressources énergétiques, provoque chez nous une autre question qui n'est plus d'ordre de respect du climat, mais qui est de l'ordre de tout simplement autonomie stratégique de l'Europe. Dans quelle mesure on peut fonctionner comme ça en étant un petit peu à la merci des exportateurs des hydrocarbures et dans quelle mesure en fait aller vers un système décarboné n'est pas en soi aussi une mesure de sécurité d'approvisionnement et non pas que une mesure écologique. Donc je pense que la guerre en Ukraine nous renvoie à ce type de questions. Et je pense que nous nous dirigeons vers un moment extrêmement compliqué. L'hiver prochain, ça va être un moment charnière. Au mieux, on pourra s'attendre à des prix hauts. Au pire, on aura une conjoncture de crise économique avec une inflation forte, énergétique avec le manque d'énergie, sanitaire, que Dieu le préserve, mais c'est possible. Et puis, on ne sait pas comment évoluera la situation militaire en Ukraine. Donc, nous avons un tsunami qui se profile à l'horizon, mais je pense qu'il faut le regarder justement dans le cadre de ce long terme que vous avez signalé. En fait, l'histoire montre qu'il est très difficile de changer des comportements, de changer de mode d'approvisionnement en énergie sans être contraint. Donc cette crise, même si elle sera extrêmement douloureuse, et je pense encore une fois, il faut dire la vérité aux Européens, on fait face à une situation sans précédent, on n'a pas toutes les solutions, mais par contre, si on le comprend tous, et si les sociétés démocratiques le comprennent, là on sera tous mobilisés, et là on pourra tourner cette crise vers une opportunité.
Alors justement, cet objectif, donc zéro carbone, décarbonation, objectif 2050, est-ce que tous les pays en Europe, bien sûr, peuvent avancer au même rythme ?
Alors bien entendu, là, nous avons des situations extrêmement différentes. Nous avons la France qui a 75% toujours du nucléaire, donc d'une énergie zéro émission. Et puis nous avons des pays comme l'Allemagne, la championne de production de la lignite en Europe. Nous avons l'Italie. Bien sûr, nous avons la Pologne qui a fait un petit peu l'objet d'être l'exemple illustratif de la dépendance du charbon en Europe. Donc on ne peut pas, de façon tout à fait logique, avoir les mêmes rythmes et les mêmes méthodes. Donc c'est pour ça le concept de la transition juste, d'un échelonnement de cette transition, de la planification sur 20-30 ans, avec des moyens appropriés. Et comprenez-moi bien aussi, je pense qu'on réduit trop souvent la discussion sur la transition énergétique à la fermeture des sources existantes. En fait, l'enjeu aujourd'hui, il est complètement de l'autre côté. Il est construire des sources nouvelles. Le vrai goulot d'étranglement, c'est nos capacités d'investissement, c'est nos capacités de financement, c'est la durée des processus d'investissement, c'est aussi l'atteinte de la maturité de prix de certaines technologies comme l'hydrogène qui nous permettent de construire une nouvelle économie basée non plus sur les énergies fossiles, mais sur des énergies zéro émission.
Michał Kurtyka,
Autant, vous le dites clairement, tous les pays ne peuvent pas avancer au même rythme, mais d'un autre côté, sur quelles décisions peut-il y avoir consensus, finalement, entre certains pays ?
Alors, je pense que, premièrement, nous avons le consensus validé par le Conseil européen sur, justement, l'horizon 2050, la neutralité climatique de l'Union européenne en tant qu'ensemble. Ça, c'est, je pense, une décision absolument fondamentale. Elle est maintenant déclinée en plusieurs instruments, le paquet Fit for 55 qui vient, il y a peu de temps, d'être accepté par les conseils des ministres d'énergie, qui fera maintenant l'objet de dialogues entre le Parlement européen, la Commission et les pays. Donc je pense que là, c'est un paquet vraiment très ambitieux qui nous permet de réduire les émissions de 55% d'ici 2030. Donc les pas sont programmés. Maintenant, il faut, encore une fois, se poser des questions aussi de changement des habitudes. Aux États-Unis, par exemple, une voiture consomme 15-20 litres sur 100 km. En Europe, on a les standards qui sont plus forts et donc l'équivalent consomme 10 litres. On se rend compte que les usages d'énergie, c'est aussi une question de choix sociétaux. Et je pense, encore une fois, que la crise à laquelle nous allons faire face cet hiver, mais probablement les hivers prochains, où il va y avoir la question d'énergie qui sera centrale pour nos sociétés, à la fois en termes de pénurie, en termes de pauvreté énergétique, en termes de choix, de rationnement d'énergie pour telle ou telle filière industrielle, etc. Ça sera un déclencheur, si on le tourne bien, déclencheur d'une nouvelle dynamique. De la même façon qu'en 1973, après la crise pétrolière, la France, par exemple, s'est engagée massivement sur un programme de construction de sources nucléaires. Donc il faut, encore une fois, bien utiliser la crise qui se profile à notre horizon pour aller dans le sens que nous venons de décrire.
Alors, on pourrait se poser la question aussi, est-ce que la décarbonation peut remettre finalement en question la sécurité d'approvisionnement ? Est-ce que cette décarbonation ne peut pas ajouter en difficulté ?
Malheureusement, nous faisons face à plusieurs types de technologies. Une qui est la plus répandue lorsqu'on pense à la politique climatique, lorsqu'on pense à la transition, c'est les énergies renouvelables, l'éolien et les photovoltaïques. Malheureusement, leur grand défaut, dont on ne parle pas assez, c'est l'intermittence. Vous savez, le soleil ne brille pas tout le temps, le vent ne souffle pas tout le temps. Et même dans un pays comme la Pologne, sur 8760 heures que compte l'année, un panneau photovoltaïque moyen fonctionne 1100 heures. Alors, est-ce que nous voulons le choix sociétal qui est de dire, tant qu'au moment où le soleil brille, on va aux écoles, on fait tourner nos entreprises, on fait travailler les hôpitaux au moment où ils ne brillent pas, on ne le fait pas. Bien entendu, non. Mais pour ça, il nous faut des solutions de stockage qui nous permettent de lisser. Et donc, je pense que l'essentiel maintenant est de garantir que cette décarbonation soit accompagnée d'une discussion sur la sécurité énergétique et donc sur les technologies. Et là, j'en vois deux. D'une part, c'est l'intégration locale, parce qu'on n'a pas de grands moyens de stockage d'électricité, mais on a des moyens locaux, une petite hydro, du biogaz, un petit réseau de cogénération locale avec une source qui permette de stocker la chaleur ou le froid. Ça, c'est des solutions locales qui peuvent vraiment faire la masse si on les applique sur l'ensemble de l'Europe. Et puis, il y a le nucléaire, la seule source 24 heures sur 24 disponible d'énergie zéro émission. Et il faut qu'on se repose la question en Europe sur la renaissance du nucléaire.
Une dernière question concernant le fameux prix du carbone. Alors là, on est dans le signal prix. Hein. Concrètement, à vos yeux, quel est le prix idéal pour la tonne de carbone aujourd'hui ? Les estimations varient selon les pays et les économies.
Alors effectivement, la réponse d'un économiste par rapport à l'équation climatique, c'est si nous avons compris qu'en fait les énergies fossiles ont un effet secondaire néfaste pour le pays, il faut taxer l'effet secondaire, il faut le rendre monnayable. Et donc là, effectivement, la taxe carbone, c'est la bonne voie. Jean Tirole, Christian Gollier de la Toulouse School of Economics ont fait beaucoup de travaux là-dessus. Donc il y a des différents chiffrages, je ne les ai pas en tête, mais je pense que la question, c'est plus dans quelle mesure nous sommes prêts à mettre ce type d'outils pays par pays et dans quelle mesure cela impactera par exemple, les échanges commerciaux entre les pays. Du coup, la solution qui est adoptée en Europe, c'est la taxation du carbone aux frontières, justement pour permettre une transition des industries européennes sans qu'elles soient, pendant ce temps de fragilité, de transition, exposées à une concurrence qu'on appellera nous déloyale dans ce sens-là pour piquer les parts des marchés pendant ce moment de transition. Mais ça, on nous engagera dans un débat extrêmement compliqué, dans un monde de plus en plus fragmenté avec la Chine, notamment avec nos grands partenaires commerciaux, parce que pour eux, ça ne va pas leur plaire.
Michał Kurtyka, ancien ministre polonais du climat et de l'environnement, qui a présidé notamment la COP21. Il s'exprimait dans le cadre des 22e rencontres économiques d'Aix-en-Provence début juillet 2022. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté cet épisode d'Où va l'écho. Nous espérons qu'il vous aura plu et vous aura donné des clés pour mieux comprendre l'économie. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à laisser un avis sur la page de notre podcast et à partager cet épisode. À très bientôt.